Il est beau de rêver, il est peut-être même sain de rêver. C'est bon pour la circulation du sang. Mais vient un âge où rêver devient dangereux, et quiconque n'a appris à faire cohabiter ses rêves et la réalité risque d'avoir de gros problèmes. Tout rêve irréalisé enfle et finit par écraser la vie. C'est ce qui arrive à Svant et Annika Svantesson de Malmö, les héros de cette pièce.
Annika Svantesson, mère de famille nombreuse, mène une existence paisible et rangée à Malmö, en Suède. Elle contemple de sa fenêtre tous les jours les lumières de Copenhague, situées sur l'autre rive. Elle se demande pourquoi, chaque week-end, son mari Svant prend le bateau pour s'y rendre et ce qu'il y fait. Annika a la phobie de l'eau, une peur viscérale qui l'empêche de prendre le ferry, mais bientôt, un pont sera construit entre Copenhague et sa ville pour lui permettre d'y accéder. C'est le point de départ de La ville d'à côté, un drame écrit par Marius Ivaškevičius et joué au théâtre de la Verrière de Lille. Rencontre avec Émilie Spital, responsable de la mise en scène, pour en découvrir un peu plus sur cette pièce.
Alors, La ville d'à côté, c'est un texte de Marius Ivaškevičius, qui est un auteur contemporain lituanien. Ce texte n'a jamais été publié en France. Je suis allée le chercher en 2011 à une université d'été en Lorraine. Puis par la suite, je suis partie en Lituanie, j'ai rencontré l'auteur, la traductrice. Et à l'issue de ce voyage, ils m'ont offert ce texte. Et il s'est passé pas mal de temps entre le moment de la mise en scène et le moment de réception du texte, puisque ce texte se passe notamment en Scandinavie, et entre Malmö et Copenhague. Et j'ai fait aussi le parcours moi-même pour vraiment être fidèle au récit et essayer de ressentir ce qu'avaient pu ressentir les personnages de la pièce. Et puis j'ai attendu aussi d'être sur l'île pour pouvoir monter ce projet. Et donc il a fallu attendre 2017 pour démarrer cette aventure.
Sans trop en dire non plus, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que ça raconte cette histoire ?
Alors, l'histoire se passe un petit peu avant, pendant et juste après la création du pont de Loresund, qui est un pont qui relie par voie terrestre, par la mer, qui traverse la mer entre ces deux pays. Donc, nous avons une histoire, l'histoire d'Annika Svantesson, qui est une mère de famille nombreuse, qui vit à Malmö avec son mari. Une vie totalement rythmée et monotone, puisque ça fait 14 ans que ça dure et elle ne sort absolument jamais de cette maison. Elle a peur de l'eau, donc elle ne va jamais à Copenhague, sur la ville d'en face, et son mari s'y rend toutes les semaines. Chaque semaine, elle se retrouve seule et elle se demande pourquoi son mari va tous les week-ends de l'autre côté de la rive, sachant qu'on voit la ville de sa fenêtre. Et un jour, on crée ce fameux pont de Loresund et la voie devient terrestre et elle se décide au départ, pour comprendre ce que vit son mari, à passer de l'autre côté, dans la ville d'en face. Et voilà, et donc l'histoire démarre de là, à partir de quel moment la nouvelle liberté de cette femme va devenir extrême. À partir du moment où on prend goût à la liberté, un peu comme si on allait sur l'autre rive explorer toute forme de liberté. Voilà, qu'est-ce qui se passe à partir de là?
Et pour quel type de public elle est destinée?
Alors, cette pièce est destinée plutôt à un public à partir de 15 ans, parce qu'on y traite de sujets assez forts. Évidemment, quand des adultes ouvrent la boîte de Pandore des libertés, on assiste parfois à certaines choses complexes. Donc voilà, on va dire à partir de 15 ans.
Alors, on peut remarquer que la situation principale du héros de l'œuvre au tout début est on ne peut plus banale, donc quelque chose auquel on pourrait facilement s'identifier si on est peut-être une femme en France dans la trentaine, dans la quarantaine, qui a eu des enfants. Est-ce que votre but aussi en mettant en scène cette pièce, c'était peut-être de faire réagir ou de se faire poser des questions à ce genre de femme ?
Je pense que le texte entier amène beaucoup de questions. Pas seulement envers les femmes, je pense que, voilà, par exemple, on a une thématique qui est très forte autour du couple qui vient de la part du mari qui exprime l'idée que pour lui, la famille est un lieu. Et justement, à quel moment ça apporte aussi cette réflexion-là. Il n'y a personne s'il n'y a pas de maison dedans, s'il n'y a personne dans la maison, il n'y a pas de famille. Et ça pose aussi des questions qui sont très universelles et qui sont au-delà de juste la femme, bien qu'effectivement, on parle ici d'une femme empêchée, mais qui a contribué aussi à travers les années, par ses névroses notamment, d'avoir peur de l'eau, à cet état d'enlisement. Et donc, c'est plus généralement, ça traite du questionnement de l'enlisement et de tous les murs qu'on construit autour de soi, au-delà de la question de la femme, même si intrinsèque, elle fait partie de ces questionnements qui peuvent être faits.
La ville d'à côté est un drame scandinave écrit par le lituanien Marius Ivaškevičius, racontant l'histoire d'Annika, une mère de famille suédoise vivant une existence paisible et monotone. Mais elle va peu à peu s'ouvrir à ses pulsions profondes en se rendant à Copenhague. Cependant, à quel moment peut-on ressentir dans l'écriture les influences lituaniennes ?
Lors de mon voyage en Lituanie, j'ai pu voir de nombreuses pièces. J'en suis sortie à chaque fois assez bouleversée. Il y a une forme d'écriture, oui, qui est très très particulière. Je ne saurais pas spécialement la définir avec des mots concrets, mais il y a une essence, une nécessité de dire, et un vrai style, un peu comme voilà, il y a un vrai pragmatisme qui embrasse l'allégorie. Et sans l'expliquer vraiment, c'est une écriture en couches. Voilà, la première couche de peinture, il y a d'abord l'essence, ça attise la curiosité. Mais en fait, les racines sont beaucoup plus profondes que ça. Les sensations sont inconscientes. Et à chaque fois, il y a des raisons impalpables qui font qu'à chaque lecture, ça dévoile un élément qui jusqu'alors a échappé. C'est un peu comme la peinture à l'huile. Au départ, on fait une première couche, puis une deuxième. Et puis on voit à chaque fois l'épaisseur et une couche supplémentaire qui s'amène. Et c'est vraiment ce style-là, moi, qui m'a profondément bouleversée et qui m'a donné envie de monter cette pièce.
Alors, la pièce est très orientée vers la découverte, vers le fait d'aller vers l'inconnu, traverser un pont. Est-ce qu'on peut comprendre ça dans un sens métaphorique ou alors on peut prendre la pièce, on va dire, de manière très terre-à-terre ?
Alors, en fait, c'est une pièce qui est très métaphorique et c'est ce qui m'a beaucoup plu. C'est un vrai voyage. Ça ouvre vraiment, ce que je disais à l'instant, la boîte de Pandore des pulsions humaines enfouies, et ça nous plonge au cœur de l'autre rive, qui est celle du chaos, de la liberté qui explose à travers une écriture qui est très allégorique et en même temps concrète et qui laisse parler les silences. Le tout dans un climat scandinave où la lumière provient des maisons, où se pose alors la question universelle du couple, des bouleversements et tout ce qu'on croyait acquis qui peut s'évaporer en un rien de temps et d'une intimité qui est basculée par un changement de routine. Donc on a cette histoire aussi qui est très concrète, mais l'histoire de ce couple, mais... L'originalité de ce texte-là également, c'est l'apparition d'un personnage de deux personnages qui sont très allégoriques, puisqu'il s'agit du personnage du Carlson, qui a été inventé par Astrid Lindgren, qui, chez nous en France, qui a marché, c'est Fifi Brin d'Acier. Et donc, dans les pays de l'Est, c'est plutôt ce Carlson qui est un personnage ailé, qui a une hélice, et qui lui... traduit de façon vraiment allégorique ce qui se passe un peu dans le monde des humains, sans interagir avec eux. Et il communique avec la sirène de Copenhague, qui est l'emblème danoise par excellence, qui a été mutilée un nombre incalculable de fois. et qui est aussi la métaphore de la femme empêchée puisqu'elle ne parle pas. Et donc ce drôle de couple est vraiment au-dessus et coupe la pièce de façon très satirique sur et apporte une vraie réflexion sur ce qui se passe dans ce couple et dans le couple de façon générale.
Donc c'est peut-être ce genre d'œuvre qu'on redécouvrira à chaque fois qu'on en parlera avec quelqu'un qui l'a vu, parce qu'il l'a vu peut-être, enfin parce qu'il a peut-être capté une couche différente de celle qu'on a nous-mêmes vue.
Oui, absolument. Et ça arrive aussi énormément avec notre équipe et avec nous. Et moi-même aussi, c'est à chaque fois, il y a une phrase qui résonne d'une façon différente, des nouvelles hypothèses aussi, parce qu'il y a cette pièce aussi à des références qui ne sont pas forcément très connues de notre France occidentale, on va dire. Et donc oui, à chaque fois... On en découvre toujours et c'est ça qui est beau avec ce texte.
On dit que le cinéma est un art collectif, dans le sens où chaque personne ayant contribué à la création d'un film différencie un peu plus le résultat final de la vision de base de l'auteur. Mais est-ce la même chose pour le théâtre, selon Émilie ?
Effectivement, c'est une vraie œuvre collective. C'est des heures aussi de débat, parfois même avec un comédien qui a pensé à ça dans la pièce à tel moment. Et parfois ma vision qui aussi est différente. Et puis la vision de l'auteur qui, même si je communique encore de temps à autre avec lui, et laisse aussi ouvert à plein de choses. Donc forcément, oui, c'est... Toutes ces rencontres-là qui forment finalement cette pièce et cette œuvre-là, en l'occurrence dans ma mise en scène.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook du Théâtre de la Verrière de Lille.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.